Bonjour. Moi, j'ai l'impression que dans ce que vous évoquez par rapport à la vision des parents, justement, d'une image de l'école, c'est quelque chose qui persiste encore beaucoup, cette image un petit peu archaïque de l'école. De l'école des blouses grises et de comment est-ce qu'on doit travailler, de ce que ça veut dire que de faire des efforts, que les résultats scolaires, ça va être quelque chose qui va payer un effort, que le travail se fait dans la douleur et que cette vision-là aussi du rôle de l'enseignant, de la place... enfin, j'ai l'impression que, malgré tout, c'est un peu aussi parfois ce sur quoi on doit se battre aussi parfois avec certains collègues dans des établissements scolaires où il y a aussi toujours une vision un petit peu de la partition du rôle des enseignants, des éducateurs au sein de l'école. J'ai l'impression que c'est pas forcément que chez les parents. Il y a toujours un peu dans la société cette espèce de vision, cette vision un peu archaïque de l'école qui persiste. J'ai l'impression que c'est pas forcément que chez les parents de milieux populaires.
Bonjour, j'aimerais bien avoir la suite de l'histoire concernant le parent à qui vous avez dit déjà bien vous aider votre enfant. Et après, vous lui avez fourni quelques conseils. La suite, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps et dans l'efficacité?
Ma question était sur, quand vous parlez des savoirs scolaires et du rapport aux matières arts plastiques, dessin, musique, etc., et notamment dans le premier cycle, est-ce que aussi on ne porte pas la culpabilité parce que quand les enfants ont besoin d'un soutien scolaire, on le prend sur ce temps-là, on prend sur le périscolaire, sur le temps de cantine et de détente de midi, où maintenant dans beaucoup d'écoles, il y a des activités qui sont mises en place par des animateurs subventionnés par la CAF. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. Et du coup, est-ce qu'on ne porte pas aussi cette responsabilité de dévaloriser encore plus des matières qui sont déjà... et qui ne compte pas après au collège, dans les notes pour l'orientation et compagnie.
Moi, j'ai besoin concrètement, parce que ces familles-là, on les a au quotidien dans nos établissements, concrètement, des clés pour leur redonner confiance en leurs capacités. On a bien compris, les capacités scolaires, elles ne les ont pas forcément. Mais ils en ont plein d'autres qui peuvent peut-être aller dans le sens de l'école, pour aider l'enfant à réussir.
Oui, en fait, je voulais aussi revenir un peu sur le divorce des langages aussi, qui est à mon avis une des dérives de l'école de ces dernières années. C'est quand les enseignants parlent en compétences et en compétences techniques aux parents et à des parents des milieux populaires. À mon avis, là, on a aussi un lieu où il y a de l'échange qui peut plus circuler. Et c'est par l'injonction à travailler des compétences et avec des items précis. Déjà que pour les enseignants c'est compliqué, mais alors pour les parents je pense que c'est une horreur.
Oui, sur la question des parents qui dont parlait ma voisine, qui ont l'air pas favorables à tout ce qui est culturel, artistique, émancipatoire, etc. Je pense qu'il faut relier ça à leur histoire.
Bien sûr.
S'ils ne pensent pas que c'est important, c'est parce qu'ils en ont jamais fait l'expérience, eux, quand ils étaient enfants, à l'école. Donc on ne peut pas souhaiter, c'est difficile de souhaiter pour ses enfants des choses dont on n'a pas vécu soi-même le fait que ça nous a permis de nous émanciper.
Oui, la loi de refondation de l'école met l'accent sur la scolarisation des moins de 3 ans pour les enfants de milieux défavorisés. Or, vous avez évoqué le manque d'intérêt des familles, enfin, en tout cas la difficulté à percevoir l'intérêt de l'école maternelle. Donc comment ça va pouvoir s'articuler ?
Peut-être que je commence là, parce que j'ai commencé par la dernière question. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, les choses se sont quand même déplacées depuis les années, même 2000, de plus en plus. Tous les parents ont compris l'importance de la scolarité. Un certain nombre de résultats, de travaux irriguent, y compris dans l'opinion publique, à travers la presse. Et les parents voient bien que, notamment dans un certain nombre de quartiers où les parents sont pas dans une maîtrise de la langue française très aisée, combien une scolarisation précoce à la fois permet de familiariser l'enfant avec la langue française, mais aussi avec les habitudes de l'école, et un sacré appui, y compris... J'ai envie de dire que c'est aussi déjà une expérience de socialisation élargie au-delà du cercle des proches et d'initiation à des demandes, incitations à l'autonomie qui sont propices à une scolarisation réussie. Ça, je crois que ça commence à être partagé. On sait bien que, à contrario, les situations de précarité, d'évolution des familles, fait qu'un certain nombre de parents ont tendance, quand tout est difficile autour, à se resserrer sur l'enfant et être dans une relation un peu d'affectivité un peu débordante, mais qui se fait au détriment peut-être de la construction de l'autonomie de l'enfant. Et donc, du coup, toutes les instances de socialisation, qu'elles soient crèches, qu'elles soient accueil petite enfance, et qu'elles soient scolarisation précoce, sont intéressantes parce qu'elles font ouverture pour l'enfant et dégagent l'enfant d'une emprise parentale trop forte, mais qui, quelque part, peut aller jusqu'à être un frein à son développement. Voilà. Alors, sur rapport art plastique et autres, c'est vrai que à chaque fois que tout ça s'est dévolu à l'extérieur de l'école, c'est le risque que l'école se replie sur, comme on dit, les apprentissages du lire, écrire, compter. Et ça serait un peu dommageable. Il nous reste à affiner comment conjuguer le travail des différents espaces et expliquer aussi que le jeu que l'on fait dans le centre de loisirs n'est pas tout à fait traité de la même façon, conduit, animé, n'a pas les mêmes visées que quand il est travaillé dans l'espace scolaire. Il y a des modes de faire et des intentions ici et là qui ne sont pas de même nature. Je crois éminemment important que l'école continue de préserver une pluralité de sollicitations des élèves dans tous les domaines disciplinaires. Vous savez qu'au GFEN, c'est un mouvement héritier de Langevin et de Vallon. Vallon qui disait, si on veut aider au développement optimal des enfants, il faut leur offrir une variété de champs disciplinaires et de sollicitations. Solliciter la pensée divergente, la créativité, l'imagination, tout autant que le travail de pensée critique, de rationalité, etc. Il y a besoin de tout ça pour se construire. Besoin de tout ça. Alors, voilà, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ce qui peut être explicité par les familles. Je suis assez d'accord avec ce que disait Bruno, c'est-à-dire je pense que c'est faute de l'avoir connu soi-même à l'école, que a priori on considère que c'est du domaine du loisir, et que ça vaut pas. Ça vaut pas, sauf lorsqu'on a soin, souci d'expliciter à quoi c'est important, et quand on a le souci aussi d'en faire des tremplins pour les enfants, non seulement d'expression, de créativité, mais aussi de mise en valeur. C'est-à-dire, c'est autant de domaines qui, quand il y a une exposition ou autre, les parents sont extrêmement sensibles à ce qui fait projet et qui reçoit reconnaissance par l'extérieur. Il y a quelque chose d'assez fort sur cette implication. Et on sait que la mobilisation, elle peut s'opérer sur tous les champs, a priori. Donc, importance de valoriser la diversité et de valoriser jusqu'au bout, c'est-à-dire peut-être, j'ai vu que dans les nouveaux textes sur l'éducation prioritaire, il y a cette idée de faire des rendez-vous réguliers pour inviter les parents sur spectacles, etc., mise en valeur, je crois beaucoup à ça. Enfin, à la fois parce qu'il est plus facile, on y reviendra, pour les parents de venir sur des activités de type convivial, enfin c'est plus facile de faire une première accroche à cet endroit-là, et évidemment plus facile de venir à l'école quand on sait que ce sont des occasions de valorisation de leur enfant. On a deux déplacements intéressants là, qui sont des points d'appui vraiment, vraiment intéressants. C'est ça. Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui. Ben, je peux vous répondre que oui. Oui. Vision archaïque. Oui. Ben, on est toujours nostalgique d'un ordre ancien, en fait, qui, quand on commence à gratter un peu, mériterait pas autant de nostalgie pour avoir échangé avec pas mal de parents. Ce qui m'est remonté c'est des souvenirs douloureux, d'humiliation. Enfin, c'est ça qui m'est remonté. Donc, bon, des gens, comme on dit, qui s'en sont sortis, mais dès qu'on touche sur souvenirs scolaires, ça fait mal. Ça fait mal. Hein, c'est des souvenirs d'humiliation, des choses comme ça. Donc, pas simple. Alors, dans un monde qui bouge, dont on perçoit pas, dont on a du mal à projeter l'avenir, dans des repères qui sont plus flottants, c'est un grand classique de chercher des repères. Et quand on a, avant d'avoir un modèle alternatif, évidemment, on va chercher dans l'ancien. Faut très tranquillement penser que c'est pas dans l'ancien que, même si, là, j'y reviendrai peut-être, on a pu passer une période où on a jeté par-dessus bord un certain nombre des choses qui pourraient sembler appartenir au monde de l'ancien et qui pourtant mériteraient d'être conservées parce que c'est des choses qui sont plutôt intéressantes à garder. Alors je vous cite qu'un truc, par exemple, la copie à l'école, le travail de copie, hein, fortement dévalorisé. Alors aujourd'hui, moi je considère que c'est un des éléments qui... n'est pas suffisamment travaillé ou mal travaillé, ce qui fait que cette activité qu'on trouve à tous les degrés de scolaire va poser problème à un certain nombre d'élèves faute d'avoir été suffisamment travaillé et en tant qu'outil permettant, facilitant la mise en ordre de la pensée, facilitant l'élaboration, facilitant la mémorisation, facilitant la structuration de la pensée. Hein. Voilà, y compris l'universitaire, il prend des notes, quoi. Enfin, voilà. Et pour pouvoir prendre des notes, il faut avoir réglé la question graphique, enfin, de base. Mais pour copier, enfin, on copie aussi beaucoup, quoi. On a des élèves qu'on retrouve au niveau collège qui sont encore dans une activité de copie qu'on penserait plutôt appartenir au premier degré du cycle de l'école élémentaire. Ils ont tellement de mal à copier que c'est coûteux pour eux, donc ils ne copient pas leurs devoirs jusqu'au bout ou font beaucoup d'erreurs, disent avoir mal au coude, au poignet, etc., etc. Enfin bon, quand ceux qui sont à un niveau plus expert disent surtout il faut pas copier mot à mot, je lis avant d'eux, etc., etc. Enfin, vraiment, peuvent développer, sont capables de parler de stratégies beaucoup plus élaborées avec une copie qui participe à la structuration intellectuelle et qui est propédeutique justement à une écriture de production plus personnelle. Enfin, bon, j'ai pas le temps de trop m'arrêter là-dessus, mais... je voulais prendre juste cet exemple pour dire on a parfois jeté de, entre guillemets, ce qui apparaissait comme activité ancienne, des choses qui pour autant mériteraient d'être regardées d'un peu plus près comme outil de travail intellectuel éminemment important. C'est ce que je voulais dire. Hein, comme l'habitude de structuration, etc. Voilà. Bah, sinon, contre les visions archaïques, il faut faire la preuve que du neuf est mieux que la vision archaïque. Hein. Je vois pas d'autre manière de bouger ça, quoi.
C'est ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois les parents, ils ont l'air de vouloir une école scolaire. À la fois, dès qu'on leur fait voir qu'en faisant autrement, leur gamin a du plaisir à apprendre, ouais, ouais. Ils changent très vite la vie.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui est important, c'est que l'enseignant montre à voir aux parents comment on travaille en classe avec l'enfant, coopérative et émancipatrice,
bien sûr.
Pour faire avancer l'enfant plus
bien sûr.
Que de le faire travailler ses devoirs.
Les parents sont sensibles à l'efficacité des apprentissages, mais en même temps... quand ils voient l'enfant revenir à la maison avec des questions à poser, avec l'envie d'aller à la bibliothèque, de chercher dans les livres, etc., ils se disent, mais il y a quelque chose assez, enfin, qui est pas tant que, c'est quand même mieux que de mon temps, quoi. Moi, j'ai souvent eu dans les réunions de parents, des parents comme ça qui intervenaient en disant, non, mais attendez, enfin, pour contrer les propos d'autres parents, pour dire, non, mais, moi, je préfère cette modalité-là parce que l'expérience de l'aîné, c'était pas ça. Et là, je vois que l'enfant, non seulement il apprend, mais il a plaisir d'apprendre. Enfin, puis à la maison, je le vois, quoi. Il grandit à toute vitesse, et c'est ça qui m'intéresse. Hein. Rémi, Ben, c'était assez vite de soulager l'enfant de ce travail-là et puis d'inciter ensuite les parents à venir à la réunion. J'en dis pas trop parce que ça sera la suite de la journée. Justement, réunion où on explicite le dessous des cartes, c'est-à-dire quelles sont les modalités de travail avec les enfants qui leur permettent d'avancer dans les apprentissages. Et donc, du coup, qui ouvre sur quel type d'aide, moi, en tant que parent, sans refaire l'école, je peux faire de façon efficace avec mon enfant. Voilà. Donc, c'est comment travailler là-dessus. C'est-à-dire, comment, depuis ma place singulière, je peux participer à, sans qu'il y ait confusion sur les registres dans lesquels on intervient. C'est ça, quoi. Hein. Et sans que j'ai besoin d'avoir fait des études. C'est ça, mon problème en tant que parent. C'est où est-ce que je peux aider mon enfant. Et puis, c'était aussi, évidemment, de se dire, on se revoit dans un mois. Et on fait le point ensemble. Et puis, on se revoit encore dans un mois. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que cette idée aussi que... on est dans une logique d'accompagnement mutuel de l'enfant et donc on se rend compte pour que vous apportiez vos questions, vos observations et que on s'échange. Enfin, vous voyez, quelque chose de l'ordre de banaliser, quoi. Et on s'aperçoit que dès lors qu'on rencontre les gens et qu'on les reconnaît, il n'y a pas de problème. Enfin, ça se passe bien. Moi, j'ai été surpris pour mon boulot. J'avais sollicité une rencontre avec chacun des parents pour parler de leur enfant. Tous les parents ont accepté de venir et même ils ont négocié les horaires pour venir à deux. Et d'ailleurs, intéressant parce que les discours des attentes du père n'étaient pas forcément celui de la mère. Enfin, il y avait des choses complémentaires assez intéressantes. Voilà. Et donc, du coup, qui engage des relations de pas tout de suite de connivence, mais au moins de, voilà ce que les parents ils disent, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, quoi. Enfin, qu'on n'a pas honte de venir et de dire nos problèmes. Bon, que ça, c'est déjà énorme, quoi. Très tranquillement, c'est énorme. Puis ensuite, c'est tout le travail qu'on évoquait, d'explicitation de ce qu'on fait, pourquoi et quelles incidences, etc., etc. Hein. C'est tout ça de stratégie un peu de dévoilement des attendus. Hein. Tant l'école a changé, tant les attendus de l'école ont changé. Hein. Il est quand même bien loin où le moment où c'était en début de siècle, on attendait de l'école qu'elle apprenne à lire, mais où la lecture privilégiée, c'était de la lecture à haute voix. Et quand on avait ça, c'était déjà pas mal. L'expression écrite, c'était réservé que aux classes de cours moyens. Voire de cours complémentaires. Vous voyez, c'était des petits textes d'une dizaine de lignes qu'on attendait, on faisait pas écrire au niveau du cycle 2. Enfin, la question de la compréhension en lecture n'était pas un attendu. Aujourd'hui, on pourrait dire que les attentes à l'égard de l'école élémentaire sont du niveau de celles qu'on attendait au niveau du collège, de l'ancien régime, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne cesse de demander des compétences élargies. Donc, c'est un double décalage entre scolarisation que nous, on a connue, d'une part, enfin, niveau sur lequel on est arrivé, en même temps, parallèle, hausse des exigences scolaires, aussi bien en mathématiques qu'au niveau de maîtrise de la lecture et de l'écriture, des opérations intellectuelles, etc. Donc, double fossé, enfin double élément qui participe au fossé. Donc besoin d'explicitation, valorisation. Divorce des langages, dérive de l'école. Oui, compétences. Ben écoutez, quand compétences, y compris ces termes-là, ont posé problème aux enseignants, je vois pas pourquoi ils poseraient pas de problème aux parents. Enfin, en tout cas, ou alors c'est des mots valises, mais ils sont tellement... Chacun y met tellement une acception différente que tout le monde en parle, mais sans que chacun sache ce que l'autre met derrière. C'est un peu le problème de ces termes-là. Voilà. Donc, moi, il me semble que on n'est pas obligé de mettre en avant des termes comme ça. C'est-à-dire, on peut parler de façon très très simple. Mais y compris, on peut revenir sur la question des compétences, mais en le déscotchant de la façon dont il est utilisé dans le vocabulaire enseignant, parce que les parents, sur leur boulot, ils parlent de compétences. Hein. quand vous voyez les gens en train de faire ce qu'ils font dans la réalisation de la table du crépi, du mur à monter chez eux, enfin, ils ont des compétences, quoi. Hein. Donc, ils savent ce que c'est, les compétences. C'est quelque chose qui fait trace et qui est valorisé, valorisable par rapport à une tâche. Hein. C'est un savoir-faire inhérent par rapport à une tâche. Une capacité de réinvestir. Il est compétent pour faire un crépi ou pour réparer la plomberie. Ben, les gens, ils sont pleins de compétences. Voilà, plein de compétences. Des clés pour redonner confiance en leurs capacités. C'était la dernière question.